Le vrai True Crime avec les vrais dossiers. Bienvenue sur Mémoire d'Archives.
Avril 1876. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-là? Eh bien, c'est un curieux drame, dans le fond, parce que c'est assez rare qu'on voit, en tout cas, qu'on a vu jusqu'à maintenant des femmes tueuses. Et quand la victime est une femme aussi, eh bien, je pense que c'est assez rare. Mais, comme vous vous en doutez, il faut garder un mais, hein? Et oui, il faut se garder un point d'interrogation important parce que l'affaire dont on va parler ce soir est demeurée non résolue. Alors, on va commencer par résumer l'affaire. Ça se passe à Saint-Édouard de Frampton, dans la région de Chaudière-Appalaches. Et on parle ici de Mary McBriarty, on va l'appeler Mary, si vous voulez bien, qui était la veuve de James Murphy. Et elle vivait toute seule, bon, depuis qu'elle était veuve, à Saint-Édouard de Frampton. On disait d'elle qu'elle avait la réputation d'être riche et de conserver son argent à la maison, ce qui est pas une très bonne réputation, si on veut. À cette époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, quand j'étais petit, en tout cas, on a commencé à faire de la sensibilisation quand j'étais petit. Les policiers venaient dans les écoles et tout ça, et aujourd'hui, on le répète encore, l'argent... Si on vous demande votre argent, vous la donnez, vous vous battez pas, puis surtout, vous dites pas, vous vous vantez pas que vous en avez plein à la maison, même si c'est dans un coffre-fort. Il y a des gens qui aiment ça se vanter de leur richesse, mais que voulez-vous? C'est sûr qu'il y en a que ça paraît pareil quand on se promène en Mercedes ou avec des véhicules assez dispendieux. Mais bon, vous aurez compris que maintenant, c'est sûr que les choses se sont réglées par elles-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup la monnaie de plastique, la fameuse carte de crédit ou la carte de guichet. Donc, ça règle en grande partie, ce problème-là. Mais à une certaine époque et durant longtemps, c'était ça. Si vous aviez la réputation d'avoir de l'argent caché à la maison, vous deveniez une cible automatiquement pour les gens qui avaient les yeux avides d'être riches un jour. Alors, cette réputation-là, lui a nui, malheureusement, et c'est en arrivant chez elle en avril 1876 que Virginie Lehouillier, donc Virginie qui était une voisine, s'est présentée chez elle et lui a demandé une bouteille de gin. Donc, peut-être voulait-elle devenir amie ou discuter un peu comme ça à gauche, à droite. Alors, sans se douter absolument de rien, ben Mary, elle est descendue à la cave, mais sans aucun avertissement, Virginie a sorti un revolver. Elle avait réussi à cacher un revolver sur elle et elle a tiré dans sa direction. La balle a effleuré le cuir chevelu de Mary, ce qui l'a fait tomber par terre. Évidemment, elle a été blessée. Et quand elle a essayé de remonter de la cave, elle s'est retrouvée nez à nez avec Virginie. Et toujours Virginie tenait l'arme pointée sur elle. Mais la veuve n'a pas voulu se laisser faire, donc elle s'est débattue. Elle est entrée, a commencé à se bagarrer avec celle qui avait tiré sur elle, probablement qu'elle ne comprenait pas parce qu'il ne semblait pas avoir aucune explication à ce moment-là. Et on dit qu'une lutte assez violente s'est engagée entre les deux femmes. Donc, on a vu jusqu'à maintenant des bagarres entre hommes là, qui dégénéraient dans des homicides argumentatifs principalement. Mais bon, bref, cette fois, c'est deux femmes. On n'osera pas dire qu'elle se battait dans le jello, pour ne pas créer de fantasme chez certains. Mais ce qu'on sait, c'est que trois autres coups de feu ont retenti dans la maison et que la veuve a fini par s'écrouler sur le plancher. Donc, Mary était en langage de boxe, elle était knock-out, elle était KO. Et on dit qu'elle avait été touchée, entre autres, à la poitrine. Et encore une fois, une première, non seulement c'est une femme qui était la tueuse dans ce dossier-là, mais Virginie a voulu cacher le corps, donc elle s'est adonnée à de la mise en scène. Elle a traîné le corps par les jambes pour la jeter dans la cave, rien de moins. Et avant de refermer la trappe, parce que souvent, les caves, dans ce temps-là, c'était comme des caves à patates pour garder certains légumes au frais ou des conserves, tout ça. Donc, c'était une trappe souvent dans le plancher. Je me souviens, chez mes grands-parents, quand j'étais tout petit, c'était comme ça. Il y avait une trappe et puis, en tout cas, on l'a vu ouverte quelques fois, mais ça donnait pas le goût de descendre tellement dans cette chose-là. Mais par contre, Madame McBriarty, Mary, de son petit nom, hein, on commence à la connaître, on va l'appeler par son prénom. Alors, Mary n'était pas morte encore, elle était toujours consciente. Et elle, bon, elle a gardé le silence, là. Elle avait l'instinct de savoir que si elle voulait avoir l'espoir de rester en vie, de faire le moins de bruit possible. Puis là, elle a entendu, elle au rez-de-chaussée, elle entendait Madame Lehoulier qui fouillait sa maison partout. Donc, elle était à la recherche d'objets de valeur, j'imagine. Et ça aurait duré une quinzaine de minutes. C'est quand même une quinzaine de minutes à fouiller la maison, c'est beaucoup. Et surtout, mettez-vous à la place de Mary qui était blessée, gravement blessée. On sait que, je sais pas si vous avez vécu, peut-être pas des drames comme celui-là, mais des accidents d'auto, par exemple, et tout ça, quand on est dans une situation où on n'est pas bien, le temps nous paraît fort long, très, très long. Donc, imaginez ici, si c'est vrai, le fameux 15 minutes. Alors, voilà, ça a dû être un calvaire pour Mary. Puis finalement, ben Virginie a fini par sortir. La fameuse tueuse est sortie avant de verrouiller la porte derrière elle. Hein, quand même polie, elle a verrouillé la porte puis est partie chez elle. Mary a été retrouvée vivante, donc quand on l'a retrouvée, elle respirait toujours. Et on l'a vu dans d'autres situations, rappelez-vous, là, depuis le début de la série. Elle a réussi, c'est ce qui lui a donné la chance d'enregistrer un témoignage devant un juge de paix. Avant de mourir, donc de succomber à ses blessures. Donc, c'est ça qu'elle a pu raconter. C'est grâce à ça, à ce témoignage-là, qu'on en sait autant de ce qui s'est passé dans la maison. Donc, qu'il y a eu un premier coup de feu, qu'elle a été atteinte de façon sommaire, si on veut, au cuir chevelu, et que là, elle s'est retournée de côté. Il y a eu une bagarre, trois autres coups de feu. Là, elle était plus gravement blessée et elle est tombée, c'est-à-dire pas elle est tombée, madame, sa tueuse, l'a traînée par les jambes. Elle a eu conscience de tout ça. Donc, c'est grâce à ça qu'on a ces détails-là, ce qui est quand même important, surtout pour l'époque, parce que des fois, c'est difficile à obtenir les détails du crime en tant que tel. Donc, avec cette déclaration-là, Virginie Lehoulier a subi un procès pour meurtre, évidemment. Et le 28 juin 1876, malheureusement pour les proches de la victime, bien, elle a été acquittée. Ce qu'on raconte, c'est un journal, le journal des Trois-Rivières, qui le raconte là, à la suite du verdict. Et j'ouvre les guillemets ici. La preuve semblait cependant accablante contre la détenue. Donc, on avoue que la preuve était forte. On savait que c'était elle et tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et on ajoute ici que M. Lignière Tachereau, l'avocat de la défense, a fait un plaidoyer très éloquent et a causé une grande impression dans l'esprit des jurés. Et je ferme les guillemets. Donc, quoi penser de ça? Ça semble vouloir dire que c'est grâce aux grandes paroles de l'avocat de la défense qui a fait un plaidoyer extraordinaire, qui finalement a mêlé l'esprit des jurés. Il les a enfiroppés, comme on dit dans notre bon québécois. Il les a mêlés d'aplomb. Et c'est peut-être... Est-ce que c'est vraiment ça? J'aimerais beaucoup, beaucoup, s'il était dactylographié, évidemment, j'aimerais beaucoup lire ce procès-là, si toutefois il existe. Pour voir sur quels éléments, tu sais, je veux dire, quand même, il y a le témoignage, ça on le sait, une preuve quand même importante, le témoignage même de la victime qui raconte comment son propre crime qui lui a coûté la vie s'est déroulé. C'est quand même pas rien. Alors, voilà. Mais qu'est-ce que... Est-ce que le plaidoyer des de l'avocat a survécu aux archives? Je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne. Ça serait quand même intéressant. Mais j'ai un petit doute parce que les plaidoyers, il y a une certaine époque qu'on les a conservés et une grande époque qu'on ne les conservait pas. Mais bon, peut-être un coup de chance. Mais ce qui veut dire que ce serait injuste aussi, ce serait peut-être une autre injustice, comme on a vu récemment dans un autre dossier, que le jury avait acquitté quelqu'un parce qu'on voulait pas d'une peine de mort, on voulait pas d'un pendu dans notre ville. Mais ça fait rien, on a acquitté un tueur. Donc, si on l'a acquitté juste parce qu'on voulait pas avoir la pendaison dans sa cour, voilà, tu sais, c'est quand même une injustice. Le tueur a été libéré, puis yahoo, il a fait la fête, là, lui. Alors, voilà, c'est tout pour ce soir. Et le crime de la pauvre Mary, on ne dit pas si... sa tueuse a vraiment touché de l'argent en fouillant la maison. Mais bon, je terminerai en disant que ce crime se classe dans la catégorie des homicides sans discernement commis lors d'un vol. Hein? C'est un titre assez long, mais qui est très explicite dans un sens que c'est aussi le... Il y a eu beaucoup d'homicides au Québec commis lors d'un vol. Bon, que ce soit un vol de dépanneur, un vol de banque, un vol aussi à domicile, un vol simple là, dans la rue. C'est toute à peu près la même chose. Le lieu change, l'importance change, mais la motivation reste la même. C'est pour le vol. Mais le vol sans discernement se distingue surtout par le fait que le voleur qui devient tueur, à un moment donné, prend un certain contrôle de la scène. Parce que la plupart des voleurs vont là pour voler. Prenez anciennement les voleurs de banque, la plupart en tout cas, rentraient dans une banque. Puis si ça tournait mal, leur premier réflexe, c'était de fuir le plus vite possible. C'était de s'en aller. Mais pour pas se faire pogner, évidemment, mais ils savaient qu'il était trop tard, qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc, quand les morts et les blessés commencent à tomber, il faut fuir. Mais dans le vol par discernement, c'est un peu le contraire. C'est qu'il y a une prise de contrôle de la scène à un moment donné. Le voleur ne semble pas pressé, si on veut, de s'en aller. Il prend contrôle de la scène, puis bien souvent, il va tuer froidement pour éviter les témoins. Donc, elle, ce qu'elle a fait, c'est un peu un cas type de cette catégorie-là, parce que Virginie l'aurait tué, je le dis sous toute réserve, parce qu'elle a été acquittée, mais l'a tué sa voisine d'abord avant de commettre le vol. Donc, elle s'en est débarrassée, disait, bon, paf, je te tue, après ça, je fouille de la maison. Puis elle est restée un bon 15 minutes. Donc, ce qui n'est pas rien. On va en avoir d'autres. C'est pas une catégorie qui a beaucoup de crimes. Mais on va en avoir d'autres là, puis ça donne froid dans le dos cette catégorie-là. Les vols simples là, qui débouchent sur un homicide, ça arrive souvent. Bien souvent, c'est arrivé aussi que le coup est parti un peu tout seul, si on veut, là, mais faut pas trop exagérer non plus. Mais ça se passe rapidement, tandis que le sans discernement, c'est ça, c'est la partie contrôle de la scène de crime qui fait en sorte que le tueur est pas pressé de partir. C'est ça qui donne. Qui fait froid dans le dos, finalement. Alors, sur ça, bien, on se souhaite à la prochaine. Balado! Bye!